est-ce qu'on est prêt là?
Allez, c'est toi le chef.
Allez, et ben 3, 2, 1, et base.
Dès qu'on s'élance de la paroi, il y a un très grand calme pendant 2-3 secondes, puisqu'on a quitté l'environnement extérieur. S'il y avait des personnes qui parlaient autour, ben on les entend plus. Donc pendant 2-3 secondes, c'est un moment unique où il y a le silence total et le corps commence à accélérer. Et après, effectivement, il y a le bruit du vent sur les vêtements. Là, on commence à prendre de la vitesse. On réoriente son corps un petit peu en se mettant à 45 degrés, tête en bas, histoire de déraper sur l'air pour pouvoir s'écarter de la paroi. On va dire que c'est un moment de plénitude. Ça ressemble au ski. Ça ressemble à, une fois qu'on s'est lancé sur une belle pente, et ça ressemble à faire des grandes courbes dans de la neige poudreuse.
On sent une aspiration un petit peu sur l'arrière dans le dos. Et puis après, c'est parti. Après, on vole sur une trajectoire. On est assez posé sur l'air, c'est-à-dire que on ressent les différences dans la masse d'air, les turbulences. On peut sentir des thermiques, ce qui fait monter les parapentes. C'est un petit peu comme quand on passe sa main au travers de la vitre de la voiture. Quand on est sur l'autoroute, on va ressentir une certaine pression. Là, c'est sur tout le corps et en fait, on est posé sur un matelas d'air.
J'ai vraiment l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo, en fait, en dimension réelle. Il y en a qui disent la quatrième dimension. Enfin, en tout cas, on a vraiment l'impression de franchir une porte, quoi, d'entrer dans un monde irréel, comme peut-être le plongeur qui est sur le bateau rentrerait d'un coup dans l'eau. Là, c'est un film qui se déroule. En fait, dans lequel on est un peu, pas vraiment spectateur, on est un peu actif parce qu'il faut l'être. Mais voilà, on ne peut plus l'arrêter, quoi. Quand c'est parti, c'est parti.
L'appel du vide, un documentaire d'Eléa François.
Le fort. Mais je croyais qu'on était 6 du coup. Voilà ton ami.
On est un peu 6 là.
J'ai commencé il y a 12 ans et j'ai pratiqué pendant 12 ans. Alors très intensément les premières années, je faisais entre 100 et 150 sauts par an, exclusivement de falaises et d'immeubles. Après j'ai fondé une famille, donc on va dire que je suis descendu à peu près à 50 sauts par an pendant 2-3 ans, et puis là je remonte, je retrouve un petit peu de temps libre. Donc grosso modo je saute à peu près, je fais 100 sauts par an. En fait, la différence principale entre le base jump et le parachutisme classique, c'est que en base jump, on saute soit d'une falaise, soit d'un pont, soit d'un immeuble, soit d'une grue, on va dire. Enfin, tout point qui est fixe et qui suppose que le départ se fasse à vitesse zéro. Et on passe d'un calme absolu, finalement, à une tempête, quoi.
On va faire quelle hauteur cette tour? 150?
110. 110, mais ça sauterait du toit de terrasse qui est à 80... Je me souviens plus combien, 80, je crois, 80, 85.
Alors le premier saut, c'était, je l'ai fait d'un viaduc, ce qui n'est pas autorisé, hein, c'est très mal, j'incite pas les gens à le faire. Je l'avais fait un petit peu pour le défi, c'était mon copain de fac de l'époque qui m'y avait emmené. Il m'avait appelé 2 semaines avant, il m'avait dit « Ouais, toi qui fais de l'escalade, là, je viens d'apprendre un truc, je pense que ça te plaira. » Puis il m'en avait pas dit plus. Et puis lorsqu'il était venu à Clermont, il m'avait ouvert le coffre de sa voiture et puis il m'avait montré un parachute. Donc là, grosse surprise. J'avais fait un stage de parachutisme l'année d'avant avec lui, mais je ne savais pas du tout ce que c'était cette activité. Alors il m'a montré quelques vidéos. Donc là, j'ai complètement halluciné. Il m'a dit, si tu veux, je te plie le parachute et on va au FAD. Voilà, au FAD, au viaduc des FAD. On arrive sur le pont, c'était en plus illégal, donc la peur de se faire coincer par la gendarmerie. On arrive au sommet, j'étais parfaitement équipé, il regarde les arbres, ah non, il y a trop de vent. Donc on attend un quart d'heure, 20 minutes, trop de vent. On revient, on rentre à la voiture, on décide d'abandonner. On y retourne le lendemain, ah, pareil, remise en condition, on arrive, oh, pareil. Et on revient le surlendemain. Et le surlendemain, en ce qui me concernait, le niveau stress était à son maximum. Je me suis assis sur le bord de la barrière, 130 mètres de vide en dessous et je savais qu'il fallait pas que je traîne pour sauter parce que sinon j'aurais été incapable de le faire.
Ah, t'es bon ? Ah bon ? Ok. Bon,
Tu es toujours à même heure en bas, quoi. De toute façon, là, on va sauter, donc... on est... On... Ouais. Donc, tu vois, moi, j'y serai... dans pas longtemps, quoi. Dans une heure, on est en bas, quoi. Une heure et demie. Ouais, non, mais de toute façon, tu t'appelles pas, hein. Moi, je t'attends, et puis voilà. Yes. Ah, tout... Merci, tout.
Alors, mes parents, c'est clair, j'aurais jamais dû leur dire. Jamais. Ça, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Là aussi, je sais même pas pourquoi je leur ai dit. Parce que je voulais faire le malin à l'époque. Je m'y suis mis, j'avais 24 ans. Ouais, c'est ça, je pense que je voulais faire le malin. Au niveau du travail, là aussi, si c'était à faire, je dirais rien à personne, parce que c'est pas... par exemple, lorsque j'avais des réunions en préfecture il y a quelques années, alors non seulement j'ai été un des plus jeunes, mais en plus je voyais les gens qui chuchotaient en disant « ouais machin, mais vous savez qu'ils sautent de falaises et tout ». Et puis alors, dès lors ce que je disais, finalement ça n'avait plus d'importance parce que je voyais les gens qui me regardaient en me souriant bien gentiment, quoi. Donc au niveau du travail, ça décrédibilise un petit peu. On passe pour le food service très très clairement. Et puis les gens s'étonnent de me voir encore en vie, 12 ans après mes débuts. Je dis ouais, j'ai eu du bol, et quand j'ai sauté dans des mauvaises conditions, ça m'est déjà arrivé quelques fois. Sinon, 99,9% du temps, j'étais prudent. Vous voyez, je suis encore là. Mais en fait, les gens me croient pas. Et je pense que si un jour je me tuais, ils se diraient, c'est logique, c'est normal, ça aurait dû lui arriver. Ça lui pendait au nez depuis un bon moment.
Pas de réseau ? Donc les autres zouzous, ils sont juste en face, au soleil, comme ils disent.
Ici, on est au soleil.
Et là, il y a vraiment un gros dévers. Donc, c'est un saut. Il y a beaucoup de gens qui débutent là. C'est pas très haut, mais c'est super bien pour les glisseurs bas, les premiers sauts. Et au-dessus de la rampe, donc il y a les sauts de molaires et tout ça qui ont été ouverts il y a très longtemps. Et...
Très longtemps, ça veut dire quoi ?
Je crois que celui-là, c'est Rigbo qui a ouvert en 96, un truc comme ça.
Et là, vous atterrissez où alors ?
On atterrit en bordure de lac, là il y a une petite route. Des fois quand le lac est bas, on va. Parce qu'il y a un barrage à côté, donc le niveau du lac change, on pose dans le lac. Parce que les champs sont. C'est des champs privés, donc on n'a pas toujours l'autorisation de poser dedans. Et voilà, ici c'est une zone un peu aussi sensible avec le voisinage. Hein.
Les gens, ce qu'ils retiennent, c'est qu'on a l'impression qu'on se suicide, quoi, puisqu'on saute dans le vide. Bon, c'est pas du tout le cas. En général, dans l'activité, ceux qui pratiquent de manière totalement inconsciente, il y en a, comme dans toutes les activités, ça dure pas longtemps. Ou ils arrêtent, ou l'activité les arrête. Hein. Si on était aussi inconscient que certains veulent le faire croire, on s'embêterait pas, hein. Si c'est juste prendre des risques et intéressant, il suffit de prendre sa voiture et de rouler à 200 sur l'autoroute ou sa moto en zigzaguant entre les voitures. Hein.
J'ai jamais rencontré, moi, vraiment de personnes suicidaires dans le cadre de ces pratiques. C'est plutôt, grosso modo, des gens qui sont des bons vivants, des gens qui aiment la vie, qui aiment faire la fête, qui profitent des beaux paysages. Donc vraiment, il y a des... Je pense pas que ce soit vraiment des pulsions de mort hein, qui guident la plupart des base jumpers dans leur motivation. Il y a les têtes brûlées, oui, il y en a. Ouais, ça, c'est bien évident. Il y a des gens en fait qui sont en quête d'adrénaline pure, qui considèrent cette activité comme la reine des sports extrêmes et qui donc n'ont aucune envie de s'y mettre.
Ça ajoute quelque chose à l'activité de pratiquer quelque chose où on sait qu'on s'engage, qu'on prend certains risques. Mais c'est pas de savoir ou de pas savoir ce qui va arriver à la fin, puisqu'on fait tout pour que ça se passe bien, pour que la fin, elle se termine comme on ait envie. C'est plus de peut-être de se prouver à soi-même ses capacités à gérer du stress, à gérer une technique...
J'ai un chronomètre dans une main et une pierre dans l'autre, et je lance des pierres, et je mesure en fait le temps de chute. Donc par exemple, je sais que si la pierre tape à 7 secondes, c'est bon, je vais pouvoir sauter. Donc tout le jeu finalement, c'est de trouver la trajectoire sur une falaise, la ligne qui sera déversante ou au moins verticale, et qui nous permettra de partir Et ce qui est loin d'être évident en fait à trouver, ça arrive parfaitement que des fois on pense que du bas ça saute, on arrive au sommet et on se rend compte finalement que la pierre tape à 3 secondes, donc ça nous permettra de rien faire.
On a des grandes ailes, des plus petites suivant les niveaux, celle-là est très grande.
On l'enfile
par les fermetures éclair en se mettant... En ouvrant la fermeture, en se passant les jambes, les bras dans la combinaison, ça pèse environ 1 kg. C'est difficile de trouver un outil sur Terre qui va permettre d'aller aussi vite en étant sur un point fixe en haut d'une montagne, mais en y étant physiquement, hein, pas en étant en l'air au-dessus, en avion, mais en étant physiquement, et de se retrouver 2 minutes après, 2000 mètres plus bas, et à plusieurs kilomètres de distance.
Lorsque j'ai reçu ma combinaison à elle, je l'ai mise en fait à la maison. Donc lui, il était là, il était en train de jouer, puis il m'a dit oh, « Papa, c'est quoi ?» Je dis bah, « c'est, tu vois, c'est comme faire l'oiseau, mais toi, tu pourras pas le faire, je t'interdis de le faire, parce que c'est pour un parachute, ne l'oublie jamais. » Donc il m'a regardé avec des yeux émerveillés. Alors moi, pour moi, ça paraît difficile de ne pas lui dire, c'est-à-dire que je vais dans les Alpes. Je dis bah, « je vais dans les Alpes pour sauter en parachute ». Voilà, point. Lui, en fait, il est très content que j'aille dans les Alpes faire du parachute. Il est surtout plus content de me revoir lorsque je reviens. Mais pas stressé. Enfin, c'est-à-dire qu'il est content de me voir. Il a que 4 ans et demi, mais il est content de me revoir quand je reviens parce qu'il m'aime, mais pas en se disant mon papa a failli se tuer, il fait des trucs de fou parce qu'il n'a pas encore ces repères-là. Par contre, un jour, il les aura peut-être. Je pense qu'on prend conscience du danger véritablement vers les 10-11 ans. Avant, c'est difficile, hein, et encore. Donc peut-être que si je continue de pratiquer à ce moment-là, il se dira, ouais, mon père prend des risques, les copains à l'école me disent qu'il prend des risques, l'instit, machin. C'est souvent social, en fait. Hein, on se fait une image de quelque chose par rapport à ce qu'on disent les autres. Alors même si on a une opinion différente, quand vous avez 99 personnes sur 100 qui vous disent « c'est un truc de fou », généralement, on peut se poser des questions et il en sera peut-être convaincu plus tard.
Alors si lui, dans 10 ans, 15 ans, il veut s'y mettre aussi ?
Moi, j'ai conscience d'avoir eu de la chance quand même sur beaucoup de sauts. J'aurais vraiment pu me tuer... Vous savez, enfin, il n'y a que 4 ou 5 sauts, vraiment, ça aurait pu très mal passer sur 850, ça paraît peu, mais c'est suffisant pour se tuer. J'ai eu de la chance. Voilà, c'est grâce à la chance que... Donc, si lui devait s'y mettre, je lui dirais, ben, va falloir que tu aies une bonne étoile, hein, parce que non seulement faut être sérieux, mais en plus, tu devras ne pas avoir de grosses malchances. Et je serais très réservé. Honnêtement, je n'ai absolument pas envie. Je préférais qu'il fasse... je vais l'encourager à faire, je sais pas, de la musique, ce qu'il a envie, ce qui l'intéresse. Voilà. Mais je ne l'encouragerai pas à prendre des risques dans des situations extrêmes. Et j'espère jamais être un modèle pour lui ou un exemple à suivre. Du coup, il n'y aura pas de vidéo de base à la maison. Il sait que je saute, mais il n'y aura pas... Enfin, voilà, je ne vais jamais me valoriser par rapport à ça.
Et là, il
n'y
a pas trop de vent, alors.
Pour les wingsuits, normalement, il
ne
va pas sauter.
Non, il n'y a pas trop de vent. Alors, on va s'équiper, puis on va voir après.
Tu veux y aller, même, ou j'y vais ?
Bah, je sais pas, tu veux qu'on y aille à deux ?
Ouais.
Je suis. Mais de toute façon, moi, je vais partir sur la conque, puis revenir, donc. Je sais pas ce que tu fais.
Ouais, je voulais faire ça, mais avec le vent, je pense que...
Ah, ça va contrer un peu, le départ, c'est sûr.
Ça va contrer un peu, ouais. Je vais y aller un peu large. Je fais ça un peu large.
D'accord. Bah, je te suis. Et puis voilà.
Là, c'est la concentration. C'est-à-dire que lorsqu'on met le sac sur le dos, il faut bien tout vérifier. Parce qu'une fois qu'on sera parti, ça sera plus le moment de constater que la poignée, par exemple, n'est pas bien sortie de sa pochette et qu'on a un petit problème pour l'attraper.
On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, donc il faut faire un bon départ. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi.
On s'approche près du bord prudemment, parce qu'il faut surtout pas glisser en fait avant de sauter. Il faut que le saut soit volontaire. Et donc là, les sensations sont des sensations un peu tendues, c'est-à-dire qu'il y a de l'appréhension, clairement. Le milieu est très impressionnant lorsqu'on regarde le vide. Il y a parfois 300 mètres de verticale, mais il y a en tout des fois 2000 mètres de hauteur par rapport à fond de vallée. Donc là, c'est des émotions intenses, on va dire, mais plutôt un petit stress, on va dire, une petite appréhension. On a tous les mains moites à ce moment-là, je pense.
On se pose des questions. Est-ce que vraiment j'ai envie de le faire? Est-ce que voilà. Pour moi, c'est quelque chose d'assez. C'est une démarche qui même dans la vie de tous les jours m'aide beaucoup, quoi. Donc c'est.
Par exemple.
Et ben par exemple, ça m'a permis de me lancer. En fait, je crois que c'était la chose qui me semblait la plus dure à réaliser, on va dire à 18 ans. Et le fait de l'avoir réalisé maintenant, là j'écris un livre par exemple, un roman à suspense, et c'est vrai que j'avais envie, ça fait depuis 2000 que j'écris des petites choses, mais j'osais pas me lancer réellement, donc finalement on écrit pendant 3 jours, une semaine, un mois, puis on laisse tomber son manuscrit, et puis voilà, ça tombe aux oubliettes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi en France, et le fait d'avoir... pu réaliser ce rêve-là, et ben ça m'a ouvert plein de portes. Je crois que c'est toute une démarche, ça m'a permis de me réaliser, je pense.
On peut très bien considérer qu'à un moment donné, c'est vrai qu'une personne extrêmement raisonnable, trop raisonnable dans la vie, ne pourrait pas se mettre à ce genre d'activité, parce que malgré tout le sérieux qu'on peut avoir, à un moment donné, faut quand même sauter, faut quand même y aller. Et instinctivement, la peur empêche l'homme de sauter de falaise de 500 mètres de haut, c'est évident. Je pense qu'il y a quand même quelque chose un peu, une peur ancestrale du vide. Simplement, je pense que la peur du vide, elle est associée aussi en quelque sorte à un rêve, à un fantasme de l'homme de vouloir justement de voler comme les oiseaux, de vouloir tomber, de vouloir piquer, etc. Et c'est finalement ce qui se retrouve beaucoup chez les base jumpers, c'est à la fois cette crainte, mais en même temps ce désir très fort, cette envie très fort de braver sa peur pour arriver à découvrir quelque chose d'irréel qui paraît incroyable.
Ok, bon, on se briefe un petit départ. Jean-Charles, tu veux partir d'abord ou nous d'abord?
Ouais, je vais en premier.
Tu vas en premier?
Ok.
Dis-toi bien.
Ouais, bonsoir, mec.
Pour moi, ça a permis de rencontrer des gens assez vrais. Parce que dans la vie de tous les jours, on peut se mentir à soi, on peut mentir aux autres, on tombe sur des gens qui sonnent assez faux, ou ils peuvent vous raconter n'importe quoi, mais ce qui les intéresse, c'est le profit, l'argent. Et donc du coup, ça permet de faire une parenthèse, effectivement, avec la vie de tous les jours, qui est assez, je la trouve assez inhumaine, assez difficile. Il n'y a qu'à allumer la télé, et on nous parle de crise économique, de crise sociale, c'est assez déprimant. Moi, une vie métro, boulot, dodo, ça me satisfait pas, quoi. Donc, j'ai besoin de... Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à s'exprimer en faisant de la peinture, des sculptures, et puis ben, d'autres qui vont s'exprimer à différentes périodes de leur vie de façon plus... avec des beaux sommets, des sauts de falaise. Donc, je pense que un artiste et un sportif qui fait ça vraiment de façon amateur, quelque part, la barrière, elle n'est pas... Enfin, il n'y a pas de barrière, on recherche quelque chose, on est les conquérants de l'inutile, hein. Ça ne sert à rien, hein. Concrètement, ça va pas servir à grand-chose, mais ça permet de donner un peu un sens à ce qu'on fait, et le fait d'aller faire un saut avec les copains, ça nous met un peu de baume au cœur sur une semaine, facilement.
Est-ce qu'on est prêt là?
Allez,
c'est
toi le chef.
Allez, et ben 3,
2, 1, et base. C'était l'appel du vide avec Michael, Guillaume et Jean-Noël. Merci à Christophe Deleu et à Jean-Christophe Galen du QEJ. Merci également aux frères Giraud, Camille pour ses conseils et Antonin pour ses contacts. Et enfin, merci à Natacha Musi pour la musique.